c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu, tellement fort, ces moments qui de louange. Enfin, moi, j'ai vraiment été transporté. Je pense que vous, c'est pareil. Et ce qui est incroyable, c'est que je sens vraiment la direction de Dieu dans tout ce qui a déjà été annoncé. Et je voudrais juste rester dans le flot et qu'on puisse, merci Estelle, et qu'on puisse nous-mêmes rester et vraiment être au bénéfice de tout ce que Dieu veut vous partager. Dieu veut nous partager. Et ça fait quelque temps déjà que je sens dans mon cœur un appel. Et cet appel, c'est pas quelque chose qu'on aime faire, je pense, de manière individuelle, mais de manière collégiale aussi. Et pourtant, c'est un peu le mouton noir, j'ai envie de dire, des églises, c'est la prière. Voilà. Et je sens vraiment dans mon cœur un appel à la prière, à se lever pour intercéder. Et c'est du coup le thème de mon message, c'est vraiment pas quelque chose de hyper théologique, j'ai envie de dire. C'est juste ce que j'ai sur mon cœur et ce qui bout dans mon cœur. Et voilà, on met souvent ce petit émoticône là quand quelqu'un partage une pensée ou voilà, on prie. Voilà. Et juste, je voudrais vous engager un peu plus dans la prière et nous engager tous dans la prière. Parce que la prière, c'est vraiment une force. Et j'avais cette diapo 1. Mince, c'est pas celle que je pensais. Du coup, je vais le dire. Je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Je trouve que ces dernières paroles, derniers mots sont horribles. C'est un peu comme Pierre. Je cherche des volontaires pour venir m'aider. Mais voilà, des fois, ça manque un peu. Donc, je vous invite vraiment à venir soutenir Pierre, nous, qu'on puisse venir soutenir Pierre. Et là, cet appel, c'est pour la prière. Et du coup, je voulais juste développer quelques points. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi prier? Comment prier avec efficacité? Et quelques formes de prière. C'est vraiment, comme je disais, ça vient juste de mon cœur. Sur qu'est-ce que la prière, j'avais ce verset de Matthieu 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On a trois actions à faire quand on prie. On entre dans notre chambre, et je pense que là le terme de chambre peut être pris comme notre endroit privilégié où on se sent en contact avec Dieu. On est tous différents et Dieu nous a fait tous différents et on a tous un moyen particulier d'accéder à Dieu. Et donc c'est notre chambre, c'est notre endroit privé, c'est l'endroit où on est en relation avec Dieu et c'est là que Dieu nous invite. Ferme ta porte. La porte, moi je dirais un peu toutes les pensées, les tracasseries, voilà, tout ce que... voilà. Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que vous c'est pareil, mais quand on dit, bon ben, ce matin j'ai prié, et c'est comme si d'un coup on pense, ah mince, j'ai pas pensé à appeler truc, on a le corps qui gratte, on a envie d'aller aux toilettes, il y a mille choses qui se passent, vous voyez, comme si notre corps a plein d'autres pensées. Mais ferme ta porte, on a une volonté là de dire, ok stop, maintenant mon corps soit soumis à ma volonté, et là ce moment il est là pour Dieu, pour passer un temps de communion avec Dieu. Et prie ton Père. Donc prier, bon ben voilà, être dans la prière, c'est ce qu'on va voir, qui est là. Et ça, c'est tellement rassurant de dire que Dieu est là. Quand on veut prendre du temps avec lui, il est là. C'est pas, voilà, des fois nous, on n'est pas disponible en tant que personne physique. On reçoit des messages ou on en envoie et les personnes ne sont pas disponibles. Mais Dieu, lui, il est là. Quand on rentre dans notre chambre, il est là. Et du coup, sur qu'est-ce que la prière? J'avais ce petit résumé, c'est un échange, un dialogue avec Dieu. Et ça implique une relation ou un désir de relation. Et sans prière, nous dépérissons spirituellement. Ça, c'est quelque chose de très important parce que je pense qu'on peut très vite, par notre quotidien, être attiré par plein d'autres choses que la prière. Comme je disais, c'est le mouton noir, en fait, c'est un peu ce qu'on laisse de côté facilement. Et du coup, on peut passer à côté de cet oxygène et de cette vie que Dieu nous donne, que Dieu nous propose. C'est un peu la manne qu'il devait ramasser dans le désert, vous savez. Et sans ça, notre vie spirituelle, elle dépérit très rapidement. C'est comme si on ne mangeait pas pendant quelques jours, hop, notre corps, il va commencer à maigrir et avoir moins de force, ainsi de suite. Pareil, la prière, si on ne prie pas, si on ne passe pas ce temps de tête à tête, cette communion avec Dieu, notre âme dépérit. Et la diapo suivante, c'était pourquoi prier? Et cette question, elle peut paraître bête, mais moi, je me la suis souvent posée plus jeune. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier comme Dieu est tout-puissant? Pourquoi il ne fait pas les choses lui-même sans qu'on ait besoin de prier? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi il a besoin que nous, on prie? Voilà. Et moi, c'était vraiment une question, je me rappelle, je l'ai posée à une de mes mères spirituelles à l'époque, où je disais, mais je ne vois pas l'intérêt de prier, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut prier pour que Dieu agisse, pourquoi il n'agit pas directement. Et ce qui est beau, c'est que ben, Dieu, il nous rend participants, et il veut nous rendre participants de son action. Et la diapo suivante, c'est beau parce que j'ai trouvé que l'image d'Emmanuel est exactement ça. J'avais les cieux sont les cieux l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes, c'est dans Psaume 115 verset 16. Et donc Dieu nous a donné la terre et nous avons notre responsabilité, il nous a rendu responsables. C'est pour ça que nous devons prier. Ce qui se passe sur la terre, ça dépend de nous en fait. Dieu bien sûr est prêt à agir, mais on a une part à jouer dans cette action. Et j'avais justement aussi ce verset en tête, préparer le chemin. Préparer le chemin, comme c'était écrit pour Jean-Baptiste, ouvrez une nouvelle voie, aplanissez les sentiers. Et voilà, j'ai trouvé cette petite image où on voit qu'il il enlève les pierres du chemin pour qu'on puisse, pour qu'il puisse y avoir un chemin qui se crée pour que le Seigneur arrive. Et c'est exactement ce que fait la prière. Quand on passe du temps dans la présence de Dieu, et ben la prière, le chemin se crée. Et c'est fou, Hélo, parce que tu vois, juste après, il y a une image avec... un avion, je trouve ça tellement improbable que tu parles de ça et que moi aussi je parle de ça. Et Dieu veut nous rendre participants, collaborateurs de son action. Il veut qu'on prépare le chemin. Et justement, dans les définitions de ce qu'est la prière, j'avais cet avion qui atterrit. Et je trouve ça tellement fou. Et cet avion qui atterrit, et c'est une citation du pasteur Carambéry qui dit que quand on prie, c'est comme si en fait, nos prières se transformaient en piste d'atterrissage pour permettre aux bénédictions de Dieu d'atterrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, ben, si on ne prie pas, ben, les avions, ils ne peuvent pas atterrir. Voilà, ils veulent bénir, ils sont là chargés de bonheur, de joie, de bénédiction, de délivrance, de guérison, mais ils ne peuvent pas parce qu'en fait, il ne se passe rien. Voilà, et nous, notre rôle, c'est de créer cette piste d'atterrissage par nos prières, c'est de créer ce chemin qui va ouvrir la voie pour le Seigneur. Je trouve ça tellement fou, Hélo, que tu parles de ça. Et voilà, on sent vraiment que Dieu il veut qu'on prépare le chemin pour l'arrivée du Seigneur Jésus. Et pour que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. J'avais aussi une citation de Charles Finney. Alors, il y a mon oncle qui est là. Et ce livre, c'est le frère de mon grand-père. Je faisais le jardin avec lui. Et souvent, je le voyais lire. Et ce livre, c'est un livre qu'il lisait. Et donc, vous voyez, il est un petit peu déglingué. Mais c'est les discours de Finney sur le réveil religieux. Et du coup, Finney, dans au chapitre 4, je vais juste vous lire un petit extrait. Non, c'est pas là. C'est sur une diapo, du coup, où il définit ce qu'est la prière. La prière produit en nous un changement qui permet à Dieu d'agir comme il lui serait impossible d'agir sans cela. Quand un pécheur ses dispositions mettent Dieu dans la possibilité de lui pardonner. Dieu a toujours été prêt à lui accorder son pardon, à cette condition. En fait, voilà, quand on prie, ça permet à Dieu d'agir, exactement comme pour la repentance. Et de même, quand les chrétiens font monter à Dieu de ferventes prières, cet état de leur âme permet à Dieu de les exaucer. Il avait toujours été disposé à répandre sa bénédiction à condition qu'il revête les dispositions convenables et offre la prière qu'il peut agréer. C'est un extrait de Charles Finney. Vous voyez, il y a vraiment une disposition de cœur. Dieu veut agir, veut bénir, mais on a notre rôle à jouer. On a cette piste d'atterrissage à créer, on a cette disposition de cœur à avoir qui va permettre à Dieu de venir nous bénir. Du coup, ben, je suis resté sur Charles Finney. Je lis, c'est du vieux français, donc c'est un petit peu compliqué quand on le... Vous voyez, la page... Voilà, c'est un vieux, un très très vieux livre. Mais du coup, je me suis quand même inspiré de quelques points. J'ai pas tout mis parce que c'est tellement dense que on serait perdu. Mais j'ai juste pris quelques citations de Charles Finet sur. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, c'est sur l'importance de la prière, du coup. J'avais vraiment ce verset aussi en tête. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Et c'est vrai que des fois, on sent la présence de Dieu sur nous et c'est comme si on voulait la garder pour nous. Sauf que le Seigneur, il nous oint pour faire quelque chose. Vous voyez, c'est pas pour qu'on soit bien, même si c'est très bien, mais le Seigneur, il nous oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le renouvellement, le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et voilà, ce matin, on a vraiment senti la présence du Seigneur, mais qu'on la garde pas juste pour nous, mais que ce soit pour apporter et donner. Et j'en viens à, du coup, comment prier avec efficacité. Donc ça, c'est inspiré donc de Charles Finet. J'ai juste retenu quelques points. On en connaît déjà beaucoup. C'est Jacques 5, 16. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et du coup, c'est comment avoir cette efficacité, comment prier avec efficacité. Donc, il présente bon, au moins une dizaine de points, mais là j'en ai juste retenu quatre. Prier avec un but précis. C'est vrai que des fois aussi, quand on prie, on peut vite être tenté de se laisser porter par les prières et parce qu'on ressent sur le moment, voilà, et notre pensée va errer et on va prier pour différents sujets. Et ce qui est difficile des fois, c'est qu'à la fin de notre prière, on ne sait même plus pourquoi on a prié. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en fait, c'est pas efficace. Du coup, le Seigneur, il nous demande de prier avec efficacité et d'avoir des buts bien précis. Ça peut être, par exemple, on va à l'échelle d'une braise, prier tous pour une personne qui est malade. Voilà, là, on a un but bien précis. Vous voyez? Et on s'accorde tous pour prier sur un thème bien précis. Donc, ça, c'est vraiment une des clés pour prier avec efficacité. Et une deuxième clé, j'ai beaucoup aimé ce qu'il disait, c'était un désir de l'obtenir proportionné à l'importance de l'objet. Un désir de l'obtenir proportionné à l'importance de l'objet. Et c'est là que je voulais lire une citation. Mon livre part de plus en plus en live, c'est pas grave. Alors dans les exemples, je pensais à Jésus qui, à Gethsémani, disait « Mon âme est triste jusqu'à la mort, il est en intercession. » Et en fait, son âme et même son corps, il transpirait des gouttes de sang. Donc on voit l'intensité de la prière qu'il était en train de porter. Et du coup, Charles Finet parle d'exemples. Ces désirs si ardents sont un puissant exemple de l'intensité des sentiments de Dieu. En fait, quand on prie avec intensité, c'est exactement les sentiments. Dieu dépose en nous les sentiments que lui-même a pour une personne. Ils sont comme de vrais sentiments de Dieu pour les pécheurs endurcis. Quand j'ai vu, et je l'ai vu plus d'une fois, la puissance étonnante d'amour pour les âmes qui peut animer un cœur chrétien, j'ai été impressionné par l'amour si merveilleux de Dieu pour les pécheurs et du désir qu'il a de leur salut. Une certaine femme, dans un réveil, a fait sur moi la plus grande impression. Elle éprouvait une compassion si inexprimable pour les âmes qu'elle en était véritablement haletante. Quelle ne doit pas être l'intensité du désir de Dieu à cet égard, puisque son esprit produit chez les chrétiens de telles agonies de l'âme, un tel travail. C'est Dieu qui a choisi l'expression le plus adéquat, un travail d'enfantement. C'est Paul qui utilise ce terme. J'ai vu un homme d'une intelligence remarquable et d'une force musculaire sans égale dans tout le voisinage tomber par terre, complètement terrassé par son désir inexprimable du salut des pécheurs. Je sais que des choses de ce genre en scandalisent plusieurs, il en sera toujours ainsi, tandis qu'il y aura dans l'Église des chrétiens aveugles et insensés. Il ne mâche pas ses mots. Mais je ne puis douter que ces choses ne soient l'épreuve de l'Esprit de Dieu. Oh, si l'Église entière pouvait être remplie de l'Esprit de manière à souffrir dans la prière les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce qu'une nation fût enfantée en un jour. Voilà, je trouvais ça, voilà, prier avec un désir d'obtenir proportionnel à l'importance de l'objet. Voilà, il y a vraiment un engagement dans la prière. C'est pas juste voilà, une petite prière avant d'aller manger, mais vraiment un engagement profond dans la prière. Le troisième exemple, c'est prier avec persévérance. Et là, j'avais l'exemple d'Élie, qui a prié, donc c'est dans 1 Roi 18, Élie qui prie jusqu'à ce qu'il pleuve. Et en fait, il envoie son serviteur, il n'y a pas le moindre petit nuage, mais il envoie et retourne voir jusqu'à 7 fois. Vous voyez, cette persévérance. Et je me rappelle, à la soirée homme chez Peter, il y avait un frère qui nous encourageait à prier plusieurs fois pour un malade. Bah, c'était Peter, en l'occurrence, qui avait mal au dos. Et en fait, il nous encourageait à réitérer la prière jusqu'à ce qu'on voit l'accomplissement de la prière. Donc il y a vraiment cette volonté-là de prier avec persévérance jusqu'à ce que l'on obtienne. Ensuite, il y a beaucoup d'autres points, mais vous les connaissez plus souvent. Il y a le papa de Matthieu qui avait, je me rappelle, présenté la prière du Notre Père. Matthieu aussi en a parlé récemment, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais donc, bien sûr, prier au nom de Jésus avec foi et abandonner nos péchés. On ne peut pas, Charles Finney, il est très clair là-dessus, on ne peut pas être exaucé si dans notre vie, on garde des péchés. Ce n'est pas possible que Dieu nous exauce. En fait, c'est une impossibilité. En fait. Dieu ne peut pas nous... Bien sûr, si on est pécheur et qu'on s'approche de lui pour demander pardon, là, ce n'est pas pareil. Mais quand on a dans notre cœur des péchés, eh ben, Dieu, et qu'on demande des choses à Dieu, ben, en fait, c'est comme si Dieu il n'écoute pas. C'est un peu comme quand il disait au peuple, mais vos sacrifices... J'en ai rien à faire, quoi. En fait, j'en ai horreur. Voilà, ils sont mauvais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que derrière, ben, le peuple péchait. Et donc, voilà, quand nous, on s'approche de Dieu avec des prières, mais si dans notre cœur, on n'est pas droit devant Dieu, eh ben, on ne peut pas avoir l'exaucement de nos prières. J'en arrive sur les différentes formes de prières. Alors, bien sûr, il y a les prières que l'on peut faire seul, les prières qu'on peut faire en famille, en groupe. Et tout à l'heure, Olivier chantait « C'est ensemble que nous aurons la victoire ». Et j'en profite pour vous inviter vraiment à rejoindre une braise. Nous, cette semaine, on a eu le privilège de se retrouver chez Marc et Maria, Noali. Et on était quelques-uns, mais je ne peux même pas expliquer à quel point on a senti la présence de Dieu. C'est notre chère Anita qui avait vécu l'après-midi même la présence de Dieu de manière très forte. Elle a prié pour chacun de nous. On a pu sentir vraiment la chaleur du Saint-Esprit. C'était physique et c'était tellement bon. Et on ne peut pas le vivre si on ne prend pas la peine. Alors oui, ça coûte de sortir le soir. Ça coûte de peut-être laisser sa famille, ainsi de suite. Mais il y a des fruits derrière. Voilà, on n'a pas de victoire sans guerre, j'ai envie de dire. Okay donc voilà, je vous invite vraiment à rejoindre un lieu de prière. Il y a aussi, bien sûr, dans les formes de prière, le jeûne et la prière. Ça peut être en groupe, en communauté, mais aussi de manière individuelle. Et du coup, je voulais présenter quelques formes de prière. Moi, comme je vous disais, le Seigneur m'appelle vraiment en ce moment à la prière. Et au moment où j'avais fait où j'avais eu comme une nouvelle conversion, quand j'avais été voir Olivier, le Seigneur m'avait vraiment appelé pendant des mois et des mois et des mois, je pense même des années, je n'ai pas mesuré, mais à des moments de prière très très forts, très très intenses. C'était souvent la nuit où je me levais, où je l'ai prié, ainsi de suite. Et en fait, petit à petit, ben, ça s'est étiolé. C'est devenu, c'est comme s'il y avait moins de ferveur, moins d'ardeur. Et je crois que, voilà, en ce moment, le Seigneur me relance et je crois que c'est prophétique. Il veut relancer son Église. Il veut nous demander à chacun de nous relancer dans la prière. Et dans les formes de prière, j'ai juste cité des versets. 1 Jean 1, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a la prière de repentance. Il y a eu un appel à la repentance tout à l'heure. Mais c'est aussi quelque chose, Matthieu nous le rappelait, que c'est quelque chose qu'on peut vivre de manière quotidienne quand il parlait des oreilles qui se salissent et que en fait chaque jour il y a un processus qui fait que nos oreilles se nettoient. Et ben, de même, on doit prendre le temps de nettoyer notre cœur et de faire cette prière de confession pour ne pas être séparé, comme je disais tout à l'heure, de la présence de Dieu. Il y a aussi dans Ecclésiaste 3:17, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour se taire et un temps pour parler. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a rien de particulièrement biblique là-dedans, mais enfin voilà, j'ai trouvé ce verset et j'ai aimé tout à l'heure aussi quand on s'est tu au moment de la louange. C'est vraiment quelque chose dans lequel Dieu m'appelle en ce moment. C'est le silence, une prière de silence où on est juste là avec Dieu et pour partager un temps avec Dieu sans rien dire, être dans un cœur à cœur, juste comme la tête posée sur son cœur et écouter battre son cœur, réaliser avec révérence l'action de Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous à la croix, l'action du Saint-Esprit. Voilà, c'est vraiment un cœur à cœur, c'est une prière silencieuse. Mais je peux vous dire que ce temps de prière, c'est comme si, depuis que je le fais, c'est comme si ça m'ouvrait un chemin justement vers de proximité vers Dieu. Et je vous invite, après, le Saint-Esprit nous conduit chacun de manière différente. En tout cas, moi, en ce moment, c'est ça vers quoi il me conduit, des prières silencieuses. C'est du coup, dans ma façon de prier, c'est quelque chose que j'ai mis en place et je vois vraiment la présence de Dieu se déposer sur moi au moment où je me tais, justement, où je ne dis rien. Voilà. Il y a une autre prière, je vais lire le texte après, mais là j'avais fait un rêve, et il n'y a pas très longtemps, c'est à peu près un peu moins d'un mois, un peu plus d'un mois, et dans ce rêve, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si j'étais en dialogue avec Dieu, et je me plaignais, et je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas, j'ai prié pour telle personne, elle n'a pas été guérie, je ne comprends pas, voilà, j'étais en mode plainte, j'ai prié pour telle situation et il s'est passé exactement le contraire, voilà, vous voyez, j'avais des revendications à Dieu, ce qui est fou, c'est que dans mon rêve, c'est comme si je voyais une main qui me montrait un verset, qui pointait un verset, et je lis le verset, et au moment où je lis le verset, je dis, ah ben je comprends tout. Seigneur, je te demande pardon. Et voilà, tout c'est clair. Et je dis, Seigneur, ouais, je comprends maintenant pourquoi ces prières n'ont pas été exaucées, tout ça. Mais en fait, je ne retiens pas le verset dans mon rêve. Et au cours de mon rêve, je dis, mais mince, c'est quoi le verset? Vous voyez, et c'est affreux parce que je ne m'en suis pas rappelé. Mais j'ai prié. Je dis, Saint-Esprit, redonne-moi ce verset. Donne-moi l'idée générale. Et l'idée générale, c'était la reconnaissance. Voilà, Saint-Esprit m'a donné ce mot de reconnaissance. Et il y avait du coup ce... Pardon, j'ai avancé. Quand Jésus il guérit les 10 lépreux, et puis bon, j'ai mis le texte, mais les sacrificateurs n'avaient qu'à constater la guérison, ils ne faisaient rien de plus, car Dieu seul pouvait guérir de cette terrible maladie. Mais l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et je crois vraiment, les amis, il en parle aussi d'ailleurs, Finet, lui il parle de péché d'omission, donc il parle carrément de péché, le fait de ne pas être dans la reconnaissance, merci Olivier, le fait de ne pas être dans la reconnaissance, pour lui c'est un péché d'omission. En fait, quand on ne fait pas quelque chose qu'on devrait faire, c'est un péché. Oui, nous souvent on dit, non, c'est bon, j'ai pas péché, j'ai pas fait les choses que je ne devais pas faire. Mais en fait, lui va plus loin en disant, des fois on pêche aussi en faisant pas les choses qu'on devrait faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce sont des péchés d'omission. Et il parle justement à ce moment-là de la reconnaissance. Parce qu'on ne dit pas merci au Seigneur simplement pour la vie, la respiration, le fait qu'on, comme disait Olivier tout à l'heure, que le Seigneur ait touché notre cœur, que voilà, on peut avoir une famille, on peut être dans un pays qui est en paix. Enfin, il y a juste réfléchissez à toutes les raisons de dire merci au Seigneur. Moi, j'ai pris la peine d'écrire. J'ai remercié pour l'Église. On se rend pas compte de la chance qu'on a d'être dans un lieu où il y a la présence de Dieu, où quand il y a la louange, on sent l'intensité de la présence de Dieu qui est là. Vous voyez, tout ça, c'est des reconnaissances qu'on peut faire lever vers Dieu. Et voilà. Et si on ne le fait pas, c'est comme si le Seigneur, Jésus, il dit je fais des choses, mais c'est un peu comme si vous décarcassez à faire un bon repas et puis les gens le mangent et puis merci, enfin rien quoi. Vous voyez, le Seigneur il nous donne des choses, donne des bénédictions et en fait ayons ce réflexe de dire merci, merci Seigneur, merci à chaque chose. Vous voyez, simplement ça peut être dans notre tête, ça peut être à voix haute, mais merci Seigneur pour tous les cadeaux que tu me fais. Voilà, c'est la repentance, prière de reconnaissance. Et moi, j'avais un petit exemple par rapport à ça. où quand j'ai arrêté mon travail, vraiment j'ai arrêté mon travail suite à un appel de Dieu pour arrêter le travail. Et moi, quand j'ai arrêté le travail, je m'imaginais, je sais pas, partir en Chine, je sais pas, j'avais aucune idée de ce que Dieu allait m'appeler à faire, sauf que j'ai ouvert une entreprise. Je m'y attendais absolument pas, mais en tout cas, c'est ce que Dieu m'a conduit à faire. Une semaine après que j'ai démissionné, il y a eu le confinement et je me suis retrouvé, ben, comme tout le monde, à la maison. Et ça me semblait à ce moment-là mais tellement stupide d'avoir arrêté son travail et de ne plus avoir de salaire et ainsi de suite. Je commençais à être comme le peuple, à râler, à dire, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait arrêter mon travail? Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, et puis on avait un seul ordinateur à la maison. Vous avez tous vécu ça, les devoirs, les profs qui donnent les devoirs, ainsi de suite, l'ordinateur, il était inatteignable, quoi. Et moi, qui avais plein de recherches à faire pour le travail, j'avais jamais été entrepreneur, donc je rentre dans un monde inconnu, plein de questions, voilà. Et je ne pouvais pas faire tout ce que j'avais envie de faire. Voilà, j'étais en mode murmure. Et Seigneur, au cours d'un jingle d'une émission, dans le jingle, c'était écrit, quelqu'un disait Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il appelait justement non, voilà, le timing de Dieu est parfait. Son mot, c'était ça, le timing de Dieu est parfait. Et je me suis vraiment senti repris par Dieu en disant, mais attends, mais je t'ai mis dans cette situation, mais je suis au contrôle. Mon timing est parfait. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous, des fois, on a tendance à voir les choses, à se dire, mais là, il a vraiment losé, quoi. Je ne sais pas ce que je fais là. Mais le but, en fait, Dieu nous attend dans la glorification, à dire, Seigneur, ben, je te remercie parce que ton timing est parfait. Merci parce que dans cette situation-là, tu vas manifester ta gloire. Et voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire, à dire, ben, Seigneur, ton timing est parfait. Merci, Seigneur, parce que ton timing est parfait. Et peut-être 15 jours après, une semaine, on m'a donné un ordinateur, j'ai pas demandé, j'ai pas formulé à qui que ce soit qui peut penser que j'ai besoin d'un ordinateur. On m'a donné un ordinateur, un voisin, et dans cet ordinateur, j'avais deux logiciels que j'utilise aujourd'hui. Du coup, c'est AutoCAD et Photoshop. En plus, ils étaient récents, ils avaient été installés dessus. Et j'ai trouvé ça tellement fou que Dieu me donne pile poil les deux logiciels dont j'avais besoin, non seulement l'ordinateur, mais en plus avec les logiciels dont j'avais besoin. Dieu fait toutes choses belles en son temps, et le timing de Dieu est parfait. Voilà. Ça, c'était vraiment le fait d'être dans la reconnaissance, dans la prière. Ensuite, ah mince, excusez-moi, dans Romains 8, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il y a vraiment la prière par l'esprit. Et ça, c'est vraiment aussi une prière que je vous invite à faire. Prier en langue. C'est le Seigneur qui nous le dit, hein, c'est pas, je ne l'invente pas. Le fait de prier en langue et de voir où Dieu, où le Saint-Esprit nous conduit. Justement, dans ces temps, comme je vous disais tout à l'heure, où j'étais, où Dieu me levait des fois la nuit, je me rappelle très bien où j'ai eu une image d'une sœur qui était en train qui était dans une tempête sur un bateau. Vous voyez, et la tempête soufflait et son bateau était chahuté, était voilà, presque à chavirer, quoi. Et le Saint-Esprit me disait, mais prie pour elle, prie pour elle. Et du coup, ben, je me suis mis à prier pour elle, pour cette tempête qu'elle traversait, sans savoir si elle en va traverser ou pas. Mais j'ai juste écouté le Saint-Esprit et j'ai obéi et j'ai prié pour elle. Et j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai prié. C'était très long. Et jusqu'à ce que c'est comme si, hop, la tempête s'est arrêtée. Et le bateau est devenu paisible. Et le lendemain matin, je lui ai envoyé un message en lui disant, cette nuit, j'ai prié pour toi. J'ai senti que tu étais dans une tempête. Et elle m'a répondu, mais j'hallucine, comment c'est possible que tu saches, j'en ai parlé à personne. Et voilà, elle était en pleine tempête. Et le Seigneur s'est servi de moi à ce moment-là. Mais il veut se servir de chacun de nous, chacun de vous. Donc les prières par l'Esprit, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Et il y a une puissance dans la proclamation aussi. Souvent, le Saint-Esprit m'amène à proclamer des versets. Voilà, je suis en train de marcher et clac, je sens, j'ai un verset qui me vient à cœur et je proclame et je sens qu'il y a une puissance. Il y a comme si je délivrais quelque chose à un moment donné. On peut nous-mêmes réciter des versets et les donner, c'est bien. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui nous donne un verset, il y a une puissance qui est libérée. C'est vraiment la parole est esprit et vie et elle apporte la vie dans les situations qu'on vit ou que d'autres personnes peuvent vivre autour de nous. Et la dernière prière que je voulais vous présenter, c'est vraiment celle auquel Dieu m'appelle en ce moment de manière toute particulière. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est Ésaïe 53, 12. Il a intercédé pour les coupables. Et cette prière d'intercession, c'est vraiment une prière, je pense, qu'on doit tous pratiquer. En tout cas, moi, c'est vraiment ce à quoi le Seigneur m'appelle. Il a prié, il a intercédé pour les coupables. Là aussi, il en parle régulièrement dans son livre, intercéder pour les coupables. Et c'est vrai que nous, on a souvent tendance à juger les gens, à dire, ah ouais, ben voilà, de toute façon, elle a bien ce qu'elle mérite, mais non. En fait, le Seigneur est venu sauver les pécheurs. Il n'est pas venu les condamner, mais il est venu sauver les pécheurs. Et nous avons cette mission, nous, d'intercéder. Comme je vous disais tout à l'heure, rien ne se passe sans que nous intercédions. Dieu ne peut pas agir si nous ne préparons pas cette autoroute, cette piste d'atterrissage. Et donc, il y a cette intercession pour les coupables. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples d'intercession. Donc, dans Genèse, on a Abraham qui dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. On sait que ce n'est pas vrai, après il a continué à parler. Peut-être que s'il s'y trouve 10 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Si, pardon, excusez-moi, il s'est tué après. Mais en fait, c'est la fin de l'intercession. Il y a tout un procédé dans lequel Abraham intercède. Il ne lâche pas, vous voyez, Dieu lui donne une réponse, mais ça ne lui convient pas. Alors il continue à intercéder jusqu'à ce que la réponse de Dieu soit celle qu'il attendait. Il y a aussi l'exemple d'Esther, qui va, parce que Mardoché le lui a demandé, elle va mettre sa vie en danger, elle va intercéder pour son peuple. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. C'est pas le verset que je voulais mettre, je suis désolé. En fait, à ce moment-là, Esther, elle vient se présenter, elle prend un risque et en fait, si c'est bien le verset dont je voulais parler, c'est que nous aussi, on doit se présenter devant le roi. Alors là, le roi avait quelque chose d'un petit peu... il avait promu un édit qui était mauvais, mais le Seigneur, lui, c'est pas un mauvais roi. Et on a, nous, aller nous présenter comme Esther devant le roi pour intercéder, pour que des gens soient sauvés, pour prier en faveur du pays. Et ensuite, Daniel, vous savez, quand le roi se rêve et qu'il ne se rappelle plus du rêve et qu'il demande aux gens... dites-moi, j'ai rêvé de quoi? Mais qui peut te le dire? En fait, personne ne peut le dire. Et du coup, les scientifiques de l'époque étaient condamnés à la mort par le roi. Et Daniel a dit, donne-nous quelques jours. Et ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michael et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu, du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Vous voyez, il a intercédé pour lui et pour ses compagnons et pour les restes des sages de Babylone. Il s'est mis à leur place, à la place des gens qui allaient tous mourir. Vous voyez, il a intercédé jusqu'à obtenir la vision, cette fameuse vision que le roi avait eue. Donc cet exemple d'intercession, voilà, c'est juste énorme. Et il y a un autre exemple d'intercession. Et je vois que je ne l'ai pas mis là, mais c'est celui d'Élie, j'en ai parlé tout à l'heure. Et je regarde si je ne l'ai pas mis quelque part, excusez-moi. Ah ouais, c'est dans 1 Roi 18. Et Élie... Dieu lui dit, va annoncer au roi qu'il va y avoir la pluie. Et en fait, Après, comme je vous disais tout à l'heure, il a vraiment dû intercéder avant qu'il y ait la pluie. Et j'avais vraiment cette pensée que des fois, Dieu dépose dans nos cœurs des promesses. Il dit, tu vas vivre ça. Peut-être tes enfants vont être convertis, ton mari va être sauvé, ta femme va être sauvée. Il va se passer des choses. Dieu nous donne des promesses. Il y a plein de promesses dans la Bible. Mais en fait, il a dû intercéder pour que cette promesse se révèle, pour que la pluie tombe. Même si Dieu avait donné, il avait dit, va, la pluie va tomber, mais lui-même a dû prier. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un engagement pour que, encore une fois, ben, la parole puisse prendre effet. Et de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, voilà, je vois que l'heure tourne, donc je vais m'arrêter. Mais je voulais juste finir avec cette parole par laquelle j'ai commencé. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se dresse, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Et ce matin, j'aimerais vraiment faire cette invitation peut-être à quelqu'un qui, comme moi, s'était un peu arrêté de prier. Pour différentes raisons. Peut-être c'est juste une habitude, un ronron qui s'est installé. Peut-être que c'est des prières qui n'ont pas été exaucées. Peut-être que, quelle que soit la raison qui fait que vous êtes arrêté de prier, mais j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à répondre à cet appel de Dieu qui dit « Je t'attends, viens dans le lieu secret, viens dans ma communion. Moi, je veux faire des choses, mais le royaume de Dieu... » Nathan, vous savez, il y a cette prière qui dit, cette parole qui dit, la nature soupire après la révélation des fils. Et en fait, ben voilà, la nature nous attend, toute la terre attend que nous prenions cette place, nous prenions notre place. Et je vous invite, si vous voulez bien, à vous lever et qu'on puisse peut-être prendre un temps. J'avais à cœur aussi